De l'actualité, belle matinée à tous.
Coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio.
Bonjour à vous et très très bon début de semaine. Alors le professeur de cardiologie Paul Touboul pose cette question. La peur du virus nous a-t-elle fait perdre la tête? Et il ajoute, nous sommes devenus en un rien de temps une armée de bons élèves à l'écoute d'autorités imbues de l'immense pouvoir de protéger un pays entier contre un fléau mortel. Alors moi, pour ma part, je constate surtout que nous sommes devenus pessimistes. Or, une publication récente de la très sérieuse université de Harvard démontre que les grands optimistes augmenteraient leur espérance de vie de 10 à 15% parce que, évidemment, ils auraient un meilleur profil cardiovasculaire. Alors, si vous êtes pessimiste, modifiez un peu votre logiciel mental et son lot de pensées négatives. Et dites-vous que l'optimisme est un gage de longévité. Allez, youpi, et on se le dit tous.
Même si c'est pas d'actualité, que l'époque est à la morosité, que tout le monde baigne dans la déprime, comme une sardine dans l'huile. Il ne faut surtout pas compter sur mes zics pour en rajouter, aucune envie de contribuer à tout ce spleen organisé. On perd un temps fou à se faire du souci, à se prendre la tête pour un non, pour un oui, à gamberger, à s'arracher les tifs, se lamenter, voir tout en négatif. Oui, oui. Aïe, 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 la vie, c'est du rail, quand on se met ça dans la tête. Oui, oui, aïe, 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 l'ulcère nous guette. Oui, oui, aïe, 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 la vie, quelle pagaille. Heureusement a été inventée une méthode lue et approuvée par des grands pontes des sommités. Cette méthode s'appelle méthode Coué. Tous les matins devant la glace, vous vous souriez bien en face, tout en vous musclant les zygomatiques, vous fredonnez ce petit air tonique. Youpi, ralala, la vie, c'est extra, avec du soleil dans la tête. Youpi, tralala, la vie est une fête. Youpi, tralala, la vie, c'est extra. Nous serons 10 pieds sous terre, irremplaçables mais au cimetière. Il sera bien trop tard pour regretter de n'avoir pas suffisamment chanté. Youpi, tralala, la vie, c'est extra, avec du soleil dans la tête. Youpi, tralala, la vie est une fête. Youpi.
Louis Chédid sur Radio Plus, dans l'air du temps. Aujourd'hui, nous continuerons à parler de l'Amazonie. Et oui, la semaine dernière, avec Jean-Louis Ouattet, président de l'Extrême Nature, nous vous avons présenté cette immense forêt tropicale avec sa biodiversité et ses habitants. Alors aujourd'hui, nous reviendrons sur ce qui la menace, car là aussi, on pourrait presque parler d'écocide, puisque vous le savez sans doute, cette forêt est en train de disparaître, étouffée par des incendies volontaires, provoquant une déforestation irresponsable. Eh oui, sale temps sur la planète. Nous prendrons ensuite un peu d'air frais en compagnie de Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes. Et bien sûr, nous parlerons nature et jardinage. Et puis, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'arthrite. Améliorer la connaissance et la prise en charge des arthrites, et plus spécialement de la polyarthrite rhumatoïde, tel est l'objectif de cette journée mondiale autour de cette maladie chronique invalidante dont le diagnostic est souvent trop tardif. On écoutera donc les conseils du docteur Guy de Regnaucourt.
Si ça se trouve, le couple en face, si blond, si beau, c'est de la frime. Si ça se trouve, le couple à gauche de vieux corbeaux, c'est de l'estime. Si ça se trouve, l'appel au bois dormant, maman, cuvée sa cuite. Si ça se trouve, l'été pas beau, le prince charmant, l'avait de l'arthrite. Si ça se trouve. Si ça se trouve, au coin du bois, le loup attend, le chaperon rouge. Si ça se trouve, pour faire l'amour tout simplement, dans quelques bouges. Si ça se trouve, la comédie qu'on joue petit n'est pas divine. Si ça se trouve, dans les nuages, le grand esprit, c'est une turbine. Si ça se trouve. Si ça se trouve, elle est déjà trois fois grand-mère, cette petite fille. Si ça se trouve, dans son moulin, il jouait Schubert, Maître Corneille. Si ça se trouve, quand il a chaud dans son enfer, le pauvre diable. Si ça se trouve, il monte là-haut faire un poker avec le dab. Si ça se trouve. Si ça se trouve, le président Mao est mort depuis 10 piges. Si ça se trouve, la rose rêve quand elle s'endort dessus sa tige. Si ça se trouve, caché tout au fond de mon dos, il y a des ailes. Si ça se trouve, la nuit elle danse le tango, les hirondelles. Si ça se trouve. Si ça se trouve, les bombardiers dans le ciel blanc ne feront plus l'hiver. Si ça se trouve, ils ne joueront plus les enfants aux militaires. Si ça se trouve, ma chienne beige, ma petite fille, mon espérance. Si ça se trouve, tu m'as rendu toutes les billes de mon enfance. Si ça se trouve.
Henri Tachant sur Radio Plus, si ça se trouve. Et oui, beaucoup de choses sont possibles. Et tenez dans l'air du temps ce jukebox version intelligence artificielle. Alors, c'est-à-dire qu'un réseau de neurones est capable de créer sans limite des chansons inspirées du répertoire humain, capable donc de composer une chanson en choisissant les bons instruments, en mélangeant les styles et en définissant un texte avec des paroles plus ou moins claires. Jukebox a été partagé avec un ensemble de 10 musiciens de différents genres. Et alors, je dirais, heureusement, ces musiciens n'ont pas trouvé que cette invention était immédiatement applicable à leur processus de création. Sinon, je vous dirais que je rends mon tablier d'animatrice.
Au petit jour,
dans un café, flipper jukebox, machine à sous. Je suis parti sans m'en douter sur le chemin des rêves fous. Sous une ombre végétale, près des vagues de la mer, autour de moi, sous les néons, j'ai vu passer de blancs nuages. Dans un vent frais de goémon, j'ai vu sourire tous les visages. Tous les visages de ce café, flipper jukebox, machine à sous, qui découvrait le ciel d'été, suivant le vol des oiseaux fous. Sous une ombre végétale, près des vagues de la mer. Sur les peintures du plafond se dessinait un paysage. J'ai cru entendre une chanson au rythme bleu d'une eau sans âge. Quand le faux marbre de ma table est devenu carte marine, je me suis vu nu sur le sable, je découvrais mes origines. Sous une ombre végétale, près des vagues de la mer. Sous une ombre végétale, près des vagues de la mer.
Voilà, c'était Gilbert Lafaye sur Radio Plus. Et bien voilà, une chanson comme celle-là, Jukebox ne vous la fait pas, croyez-moi. Allez, on retrouve tout de suite Jean-Louis Ouattet, président de l'Étrême Nature.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors la forêt amazonienne est en train de vivre ce que certains qualifient d'écocide, c'est-à-dire une destruction de ses milieux naturels, puisque celle-ci est en train de disparaître, étouffée par des incendies volontaires, provoquant une déforestation irresponsable. Alors la semaine dernière, vous nous avez situé cette immense forêt tropicale qui est un trésor de biodiversité et qui est bien plus qu'un poumon d'oxygène, vous nous l'avez rappelé, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Il faut savoir que la forêt amazonienne, c'est vraiment un écosystème unique, hein, pour le présent, mais aussi pour le futur de notre planète. Donc, elle abrite 10% de l'ensemble des espèces qui vivent au monde, dont beaucoup d'ailleurs restent à découvrir. Elle recèle aussi des exemples uniques de communautés humaines, hein, qui vivent en harmonie avec la nature. Elle comprend un cinquième des réserves mondiales en eau. Et puis, c'est un des régulateurs climatiques mondiaux majeurs. Et puis, héberger des programmes de conservation des écosystèmes forestiers tropicaux les plus ambitieux. Et ces projets sont mis à mal, hein, avec la situation.
Alors justement, vous nous rappelez, Jean-Louis, pourquoi cette déforestation rapide, on va dire très rapide, de plus en plus rapide ? Alors regardons un peu les chiffres, c'est vraiment impressionnant.
Ah oui, tout à fait, hein. Il faut savoir que bulldozers, tronçonneuses, camions, le feu, ça travaille sans relâche à l'abattage de l'or vert, hein. Il faut savoir que durant les 40 dernières années, 800 000 km², hein, ça veut dire une fois et demie la France, 800 000 km² de forêts amazoniennes ont été détruits. Et puis ça a atteint parle de, ici vraiment de la déforestation en Amazonie brésilienne. C'est surtout au Brésil que les problèmes se situent. Ça a atteint un nouveau sommet au cours des 4 premiers mois de l'année 2020. Hein. Selon des données publiées par l'Institut national de recherche spatiale du Brésil, qui va utiliser des images satellites, c'est près de 1200 km² de forêt qui ont disparu de janvier à avril 2020. Et ça représente une augmentation de 55% par rapport à la même période de l'année dernière. Donc c'est des chiffres assez pharaoniques. Hein. C'est la plus élevée depuis que les observations ont commencé en 2015. Donc c'est vraiment une situation assez catastrophique.
Alors justement, pourquoi cette déforestation? Je suppose que les causes sont multiples, comme à chaque fois.
Bah oui, tout à fait. Donc à l'origine de la déforestation, bah il y a la pression de l'agro-industrie, hein, en quête d'espace pour les cultures de soja par exemple, et pour l'élevage bovin. Il y a aussi les coupes illégales pour l'industrie du bois, hein, tous les trafics de bois. Et puis il y a la pression de l'industrie minière qui est à la recherche de nouveaux gisements. Et si on prend par exemple les élevages de bovins, bah pour obtenir des terrains vierges qui vont être adaptés à l'élevage, bah les agriculteurs défrichent leurs champs par le feu, à ce qu'on appelle la culture sur brûlis, et ça provoque beaucoup de départs d'incendies. Alors c'est une pratique qui est censée être interdite en Amazonie, mais qui est largement restée impunie au Brésil. Il faut savoir que cet élevage bovin était responsable de 80% de la déforestation amazonienne. Et donc, oui, le Brésil, pourquoi? Parce que le Brésil possède le plus grand cheptel commercial du monde, avec 211 millions de bêtes. Donc c'est le premier exportateur mondial de bœuf et puis de cuir. Et puis la déforestation, ça s'effectue aussi par l'exploitation forestière, hein. Qui concerne des surfaces peut-être moins importantes que celles qui sont converties en espaces agraires et pastoraux. Mais savoir que le Brésil, c'est le premier producteur mondial des bois tropicaux, issus de l'exploitation forestière. Et donc une très grande partie de la production brésilienne, 90%, est écoulée dans les marchés mondiaux. Et puis il y a des projets de barrages aussi qui sont inquiétants. Et puis la déforestation est nocive pour la biodiversité aussi bien pour le climat. Mais il y a une type d'altération qui demeure peu connue, c'est la dégradation. Hein. Il y a des incendies sous la canopée qu'on voit pas, des abattages d'arbres sélectifs, la fragmentation forestière. Et tout ça c'est aussi dramatique que les incendies. Et donc c'est une situation loin d'être... résolu.
Et puis il y a le pétrole.
Comment ?
Et puis il y a le pétrole.
Ah, il y a le pétrole, bien entendu, hein, puisque
on en a parlé.
Je l'ai dit, hein, les recherches minières, donc ça touche à la fois les minerais, mais aussi le pétrole.
Hein. Bien sûr. Alors Jean-Louis, justement, beaucoup incriminent le président brésilien Jair Bolsonaro, l'accusant d'être complice de cet écocide.
Bah oui, parce que en fait, il se range de fait du côté des mafias. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Il y a beaucoup de mafias qui agissent dans la forêt amazonienne. Et donc, il a saboté, par exemple, les agences de protection de l'environnement du Brésil, qui étaient déjà fragilisées, et s'est donné comme mission d'écarter les groupes de défense de l'environnement. Bon, il n'a jamais affiché de préoccupation pour l'environnement, hein. Il a indiqué à plusieurs reprises qu'il comptait ouvrir les territoires indigènes et les réserves naturelles protégées aux activités minières, justement, ou agricoles, qui favorisent plus le déboisement. Donc ça traduit, hein, la déforestation et puis ses conséquences, ça traduit une rupture entre deux logiques, celle du développement économique et celle de la protection de la forêt amazonienne. Hein. Alors ces deux logiques se déroulent toujours de manière conflictuelle ou non consensuelle, mais le président a donné son aval justement au volet économique, hein, et puis en laissant complètement de côté le volet environnemental.
Mais justement, on peut se dire peut-être que si le crime d'écocide est reconnu par la suite, il pourrait quand même être accusé. Hein.
Ah bah oui, je pense que c'est important que, mais c'est important que qu'il soit accusé. C'est important aussi que les autres pays ils regardent à deux fois pour justement les négociations économiques avec le Brésil.
Tout à fait. Alors il est vrai que vous nous avez présenté la semaine dernière l'Amazonie comme un trésor de biodiversité et on imagine donc aisément quelles sont les conséquences de cette déforestation et sur la faune et sur les arbres, mais aussi sur les habitants et sur le climat aussi, et même notre climat à nous. En bref, finalement, c'est un très gros impact sur l'environnement pratiquement mondial, Jean-Louis.
Oui, tout à fait. Les scientifiques affirment que la déforestation incontrôlée pousse rapidement l'Amazonie vers ce qu'ils appellent un point de basculement. C'est-à-dire c'est un point où elle cessera d'être un puits de carbone. Et elle va libérer, au lieu d'absorber du carbone, elle libérera les quantités massives de carbone qu'elle avait stockées. Et donc ça va empirer la crise climatique qui menace tout autant les Européens que les Brésiliens. Mmh. Et donc et puis la destruction de la forêt, ça expose directement les sols à l'agressivité des pluies qui sont très intensives en Amazonie. Donc le rôle d'écran joué par la forêt n'est plus assuré. Les sols vont subir l'érosion qui va détacher les parties superficielles les plus fertiles, les transporter, les déposer au bas des bassins versants, et donc avec des conséquences environnementales qui vont donner une perturbation des cycles écologiques, et donc une rupture, une réduction de biodiversité, une modification du régime des cours d'eau, avec toutes les conséquences qu'on connaît.
Mmh. Mais alors, finalement, l'Union européenne n'est-elle pas aussi un petit peu coupable? Et justement, peut-elle agir pour arrêter les dégâts?
Alors, oui, parce que l'Union européenne, on sait de toutes les difficultés que avec tous les pays de se mettre d'accord sur des positions claires et fermes. Alors, il faut savoir que on est en phase de signature d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et ce qu'on appelle le Mercosur. Donc, avec le Brésil. Et donc les grands principes avaient été convenus en juin dernier et ça comprenait justement les engagements à lutter contre la déforestation et à respecter de l'accord de Paris sur le climat. Alors quel sens ça aurait si l'Union européenne ratifiait cet accord alors que Bolsonaro manifeste ouvertement son intention de ne pas honorer une seule des composantes en démantelant délibérément la capacité du Brésil à se conformer à ses dispositions. Donc les pays quand même ça quand même bouge puisqu'en septembre 2020 il y a 8 pays qui sont montés au front, 8 pays européens, l'Allemagne, la France, le Danemark, l'Italie, le Pays-Bas, la Norvège, le Royaume-Uni et la Belgique, qui ont demandé au Brésil de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la déforestation croissante de la forêt amazonienne. Bon, pas de réponse pour l'instant. Donc je pense que ces messages doivent être clairs et fermes. Et puis aussi à nous les consommateurs à faire attention aux produits qui sont importés.
Mmh. C'est-à-dire
c'est important parce que il faut être vigilant et puis je pense que malheureusement c'est toujours l'économique qui va peut-être faire bouger les choses.
Tout à fait. Jean-Louis, merci.
Tout à fait, merci.
Alors on sait maintenant pourquoi bon nombre d'associations lancent un cri afin que s'arrête ce massacre. Si l'Amazonie souffre, le monde entier souffre, dit l'Église latino-américaine. Or, je n'ai pas vraiment l'impression que le monde s'y intéresse comme il devrait le faire. Et justement, nous compléterons encore ce chapitre la semaine prochaine. Et ce, à propos de la pandémie qui touche aussi, en plus tout le reste, en plus de tout le reste, qui touche ce pays. Et là, c'est vraiment très grave parce que on verra que les Amazoniens ne sont pas très très soutenus dans cette lutte contre la pandémie. À lundi, Jean-Louis.
À lundi, bonne semaine.
Très bonne semaine à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Voyez-vous, monsieur. Voyez-vous, monsieur.
Pourquoi dans les rivières on trouve des chaussures, à l'orée des forêts, des montagnes d'ordures, des usines qui crachent des tonnes d'hydrocarbures? Comment font les oiseaux, coquillages et poissons, quand ils ont sur la peau des kilos de goudron, si la mer n'est plus bleue mais marron? Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de Monsieur tout le monde? les arbres d'Amazonie. Un nuage qui pousse s'est installé sur Paris. Parfois quand je respire, je tousse. Les neiges ont fondu au Kilimandjaro. On dirait que rien ne va plus car certains animaux déjà n'existent plus qu'en photo. Notre terre est sur les rotules, faudrait voir à se calmer. Il se mettait aux fabules et se met à délirer. Annonce la canicule pour janvier. Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de... Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de la planète bleue?
Si monsieur tout le monde voulait bien, on peut toujours rêver. Éviter à tout prix que la plus belle des étoiles ne finisse sa vie en poubelle générale.
Voyez-vous, monsieur, j'ai mal au monde. On pourrait faire mieux à chaque seconde. Voyez-vous, monsieur, j'ai mal au monde. Faut fermer les yeux, mais je l'entends qui gronde. Voyez-vous, monsieur, j'ai mal au monde. On pourrait faire mieux à chaque seconde. Voyez-vous, monsieur, j'ai mal au monde. Faut fermer les yeux. Mais je l'entends qui gronde.
Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de... Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de la planète? Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de... Monsieur tout le monde, qu'avons-nous fait de la planète bleue? Voyez-vous, monsieur? Voyez-vous, monsieur? Voyez-vous, monsieur? Voyez-vous, monsieur? Voyez-vous, monsieur?
Aldebert sur Radio Plus. On pourrait faire mieux, et oui, et nous aussi, nous pouvons faire de notre mieux, ne serait-ce que pour entretenir notre terre nourricière. Et à ce titre, les conseils de Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages et jardins des hommes, nous sont très précieux.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors voilà l'automne bien installé avec sa fraîcheur et sa pluie, n'est-ce pas? Mais le jardin n'attend pas. Je crois Bertrand que nous ne devons plus compter récolter de laitue ni de batavia. Les salades, c'est fini là. Par contre, pouvons-nous encore semer les salades d'hiver et particulièrement la mâche? Vous nous en avez parlé il y a une quinzaine de jours. Mais Bertrand, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs variétés de mâche.
Effectivement, il y a plus que plusieurs variétés de mâche. Il y en a une cinquantaine de variétés de mâche. Hein.
Ah, quand même.
Ah ouais, quand même. Hein. Donc, pour la petite histoire, la mâche appartient à la même famille que la valériane. Donc, c'est une salade qui a une très bonne saveur. Moi, c'est celle que je préfère. Hein. Alors, qui se conserve bien, qui est riche en oméga 3, en bêta-carotène et en fibres. Donc, elle serait originaire du sud de l'Europe et de l'ouest de l'Asie. Hein. Et on trouve le nom de mâche pour la première fois en France en 1611. Donc, je crois que c'est en 1611. Donc, elle se serait rapidement répandue en Europe à l'état sauvage, hein, surtout dans les champs de céréales. Alors c'est pourquoi on lui donne chez nous le nom de salade de blé. Hein, vous savez qu'on l'appelle salade de blé.
Oui, mais oui, ça je savais ça.
Ouais, elle a bien d'autres noms en France, hein, parce qu'elle est très populaire en France. Donc la plante sauvage, elle a fait progressivement son entrée dans les potagers. Et alors c'est ainsi que les variétés se sont améliorées, des nouvelles variétés ont été créées. Donc on trouve surtout principalement deux types de mâches. Donc, c'est pour ça que je voudrais insister là-dessus. La mâche à grosses graines et la mâche à petites graines. Alors, les mâches à grosses graines sont généralement hâtives et productives, hein, mais par contre, elles ne vont pas résister au froid. Donc, on va plutôt les semer en août, hein, vers la mi-août, on commence à les semer, pour une récolte avant les gelées. Bon, il y a beaucoup plus de mâches à petites graines. Elles forment une rosette assez compacte, hein, celle à grosses graines forme une grosse rosette. Et les petites graines ont souvent une grande rusticité. Donc, on les connaît souvent sous le nom de mâche verte. Alors, nous, on a la chance d'avoir dans notre région une des mâches les plus connues. C'est la mâche de Cambrai, donc à petites graines, très rustique. Elle fait de très belles rosettes et elle se conserve super bien. Donc, celles-là, on va plutôt les planter un peu plus tardivement pour avoir des récoltes en hiver. Alors, pour réussir la mâche au jardin, il faut déjà choisir une bonne variété adaptée à l'époque de culture. C'est la grosse graine, comme je disais tout à l'heure, sera semée en août pour des récoltes d'automne. Et celle à petite graine sera semée un peu plus tard pour la récolte d'hiver. On peut encore la semer maintenant en octobre. Donc la mâche, elle va aimer tous les sols, principalement Oui, parce que vous pouvez la mettre dans quel que soit votre sol, vous pouvez mettre de la mâche. Mais elle va aimer principalement les terres fraîches, hein, les terres un peu humides, qui sont fermes et sans fumure ancienne. Parce qu'il faut sans fumure proche, quoi. Il faut des fumures anciennes, mais pas récentes. On peut la semer à la volée, on peut la semer en ligne, on peut encore la semer dans les petits godets qu'on va repiquer ensuite au jardin. Hein. Les graines ne doivent surtout pas être enterrées, juste recouvertes. On jette les graines, on sème et on met un petit coup de râteau au-dessus et on passe un coup de rouleau dessus. La levée sera beaucoup plus rapide si la terre est bien tassée. Alors, par contre, si vous récoltez vous-même vos graines, ne semez pas les graines l'année suivante. Attendez la deuxième année pour les semer, elles pousseront beaucoup mieux. La première année, elles ont du mal à lever la dormance. Et puis, il faut savoir aussi que quand vous semez la mâche à grosse graine en août, là, les chaleurs sont encore bien présentes, il faut prévoir des arrosages réguliers, hein, des fréquents, pour que la terre reste bien humide. Hein. On peut même prévoir un petit paillage au-dessus.
D'accord.
Alors, il y a beaucoup de variétés à grosses graines. Hein. Moi, je vais vous citer quelques noms. À grosses graines, non, il n'y en a pas beaucoup, par contre. Il y a la variété à grosses graines de Hollande, la Valgros. Par contre, en petites graines, il y a la mâche de Cambrai, il y a la coquille de Louvence, il y a la Gala, la Jade. Là. Il y en a plein de petites graines. Voilà.
Alors si on sème maintenant, on récolte quand?
Vous récoltez au cours de l'hiver.
D'accord.
Et si on sème maintenant, c'est que la mâche à petites graines.
Ok. Bon, bah, on va s'y mettre en rentrant, hein, Bertrand.
Eh ben voilà.
Bah oui, parce que une bonne salade du jardin, ouais. Quand même, hein. Ça a un autre goût. Et alors, Bertrand, j'ai lu que 67% des laitues non bio contiennent des pesticides. On le répète donc, pour manger sain sans trop dépenser, la meilleure solution reste de jardiner, à condition bien sûr, mais ça c'est évident, de ne pas utiliser soi-même de produits phytosanitaires interdits de vente d'ailleurs aux particuliers. De toute façon, depuis janvier 2019, mais je sais qu'il y en a qui disent « Ah bah oui, mais j'avais des réserves ». Bon. Et puis, ceux qui ne seraient pas encore convaincus, justement, de manger bio, devraient peut-être lire cet ouvrage de Fabrice Nicolino, « Le crime était presque parfait ». Et ça en dit long, croyez-moi.
Alors, moi, j'ai entendu parler de ce livre plusieurs fois, mais je n'ai pas encore lu, donc je vais l'acheter. Alors, Fabrice Nicolino, il mène une enquête dans les arcanes des lobbies de l'industrie des pesticides. On apprend que les SDHI, alors je ne vais pas vous dire ce que c'est que les SDHI, mais enfin, ce sont des fongicides. Traduire les lèvres. Hein. Ce sont des fongicides très dangereux qui se retrouvent un peu partout. On les retrouve dans les blés, dans l'or, dans les arbres fruitiers, dans la tomate, dans les pommes de terre, dans les terrains de foot, dans les terrains de golf, tout ça. Et en 2017, les scientifiques de réputation quand même mondiale ont prévenu les autorités du danger des SDHI. Ils s'attaquent à la fonction respiratoire de tous les êtres vivants, donc forcément aux humains. Donc franchement, c'est un livre à lire absolument. Et donc, je pense que ça va provoquer des maladies, des cancers et tout ce qu'on veut.
Bien sûr.
Comme vous le dites, si vous voulez faire avoir mangé de bons légumes, et ben faire votre potager, ça sera la meilleure façon de rester en bonne santé.
Tout à fait.
Bien sûr, faut pas employer de produits chimiques, hein, qui, comme vous le dites, Martine, sont désormais interdits à la vente et à l'utilisation.
Bien sûr.
Donc c'est même si vous en avez chez vous, sachez que c'est interdit de les utiliser. Si vous faites prendre, vous aurez un beau procès. Hein. C'est franchement. Et puis pour votre santé, franchement, ne les utilisez pas.
Bien sûr.
Et si vous n'avez pas de jardin, achetez vos légumes chez un maraîcher bio. Vous trouverez des légumes bio, hein, fraîchement cueillis, sans pesticides. Alors, pas beaucoup plus cher que les légumes des grandes surfaces, mais combien meilleur pour votre santé. Hein.
Tout à fait.
On ne répétera jamais assez. C'est pas quand on est malade qu'il faut se dire si j'avais su. Hein.
Bien sûr. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de jardin, on verra qu'on peut aussi planter sur son balcon. Alors, Bertrand, c'est le moment de récolter les courges, mais vous dites de ne pas se précipiter, et pour cause.
Effectivement, pas de précipitation. Alors, ne cueillez pas vos courges trop vite. Hein, si vous voulez qu'elles conservent, si vous les cueillez avant qu'elles soient en maturité, elles ne conserveront pas. Donc, il faut vraiment attendre la pleine maturité. Alors, lorsque les feuilles vont jaunir et vont sécher, vous regardez le pédoncule. Si le pédoncule de la courge est devenu ligneux, dur et sec, là vous pouvez le cueillir. Mais surtout à la cueillette, ce pédoncule doit rester attaché à la courge. Hein, dans le cas contraire, si jamais ça vient à casser, mangez rapidement la courge parce qu'elle ne va pas conserver.
D'accord.
Alors, attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le pédoncule, parce que c'est très pratique, hein, mais c'est en aucun cas une poignée de transport. Donc on porte les courges par le pédoncule, et puis comme ça le pédoncule casse en cours de transport, et puis là la courge ne conserve plus. Alors bien sûr, il faut cueillir les courges avant les geler, parce que si gèle, vous n'avez plus de courge. Mais en prenant bien des précautions, en les manipulant, le moindre choc, ça va être extrêmement nuisible à la conservation. Donc une fois cueillis, on peut les laver, on les fait sécher, et on les stocke au sec dans une pièce dont la température ne descend pas sous les 10 degrés. C'est l'idéal comme température étant les 20 degrés, à peu près les 20 degrés. La courge, c'est n'aime pas avoir froid. Et les courges entreposées ne doivent pas se toucher. Le pédoncule doit être mis vers le haut. Et voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut savoir aussi que les potimarrons, quand même, quand on parle de potimarrons, c'est délicieux. Moi, j'adore ça. Ils sont beaucoup plus riches en vitamines quand ils ont vieilli un petit peu.
D'accord. Alors, la semaine prochaine, on verra qu'il ne faut pas hésiter à égayer le jardin qui commence à devenir un petit peu triste. Mais là, tout de suite, Bertrand, quand même, les bulbes de printemps sont arrivés sur les étals des jardineries. Et donc,
oui,
on y pense, hein, surtout.
Oui, tout à fait. Alors, exactement, si vous avez un jardin fleuri au printemps, c'est le bon moment de les choisir, d'acheter et de planter des bulbes. Alors, le choix est immense. Il y a une multitude de variétés de tulipes. Il y a de jonquilles, de narcisses, de fritillaires, de jacinthes, des crocus, des muscaries, etc., etc. Les étals des jardineries et les catalogues vous en proposent plein de variétés. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, n'hésitez pas. C'est maintenant qu'il faut planter. Et la récompense, ce sera au printemps.
Tout à fait. Au printemps. Avec le retour des petits oiseaux.
Tout à fait.
Eh bien, Bertrand, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à lundi.
Oui, à lundi. Très bonne semaine.
Très bonne semaine à vous, Bertrand.
Au revoir.
Ce fut un voyage sans encombre. Ce fut un voyage sans pépins, à bord d'un énorme concombre, atterri parmi les lapins. Il faut voir comme ils prolifèrent, il faut voir comme ils sont nombreux, à venir adorer le dieu des plantes potagères. Je viens de redescendre sur terre et j'ai les oreilles qui bourdonnent. J'entends comme un coléoptère prisonnier dans une bonbonne. Je viens de quitter le cigare, de quitter le cigare cubain, comme ceux que je fume dans mon bain. Et j'arrive dans l'aérogare, il est interdit de fumer, mais moi j'ai pas besoin de fumer. Je suis encore dans les nuages et j'attends mon petit bagage. Je viens de redescendre sur terre et j'ai les oreilles qui bourdonnent. Comme un coléoptère prisonnier dans une bombe. Bien que je ne sois plus dans la courge, je sens encore le sol qui bouge. Paraît que ça fait ça lorsque on fait le voyage.
Fersen sur Radio Plus. Alors, aujourd'hui, figurez-vous que c'est la journée mondiale de l'arthrite et nous avons au micro le docteur Guy de Regnecourt. Et oui, Jean-Marie Bigard a confié souffrir d'une polyarthrite rhumatoïde dégénérescente et incurable, maladie qui le fatigue énormément, à l'instar de Laurence Boccolini, présentatrice de télé qui avait fini par se confier sur le mal dont elle souffre quotidiennement. Alors c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'arthrite dont l'objectif est d'améliorer la connaissance et la prise en charge de cette maladie et plus spécialement de la polyarthrite rhumatoïde dont le diagnostic est souvent trop tardif. Or, c'est une maladie qui concerne quand même 9 millions de Français. Docteur Guy de Regnecourt, bonjour.
Bonjour.
Alors, bien évidemment, nous vous demanderons, docteur, c'est quoi l'arthrite?
Alors, l'arthrite, au départ, le terme arthrite, c'est inflammation. Elle est aiguë ou chronique. Elle intéresse plus de 100 affections, l'arthrite, hein, différentes, hein, mais le terme avant arthrite, on appelait ça rhumatisme, parce que ça venait du terme rhume, écoulement, rhumatisme des articulations. Voilà. Alors, grossièrement, dès qu'on a une enflure, c'est-à-dire une tumeur, dès qu'on a une douleur, dès qu'on a une ruméfaction, on parle d'arthrite ou d'arthrose.
Alors justement, vous dites arthrite et arthrose. Je crois qu'il ne faut pas confondre arthrite et arthrose, docteur.
Non, alors l'arthrite est purement inflammatoire, hein, d'origine, je vais l'expliquer après, tandis que l'arthrose, c'est de l'usure dégénérative avec une diminution du cartilage articulaire et la formation d'excroissance due au vieillissement, justement, de cette articulation. La polyarthrite, c'est inflammatoire.
D'accord. Alors, il existe plusieurs formes d'arthrite, mais la plus connue est la polyarthrite rhumatoïde, et c'est surtout à elle que cette journée est consacrée. Alors, cela signifie-t-il que les autres formes sont plus rares? Et d'ailleurs, quelles sont-elles, ces autres formes?
Les formes de polyarthrite, surtout la polyarthrite rhumatoïde, c'est la plus fréquente. Mais il y a d'autres formes de polyarthrite qui sont d'origine infectieuse, donc bactérienne, qui sont juvéniles, c'est parfois héréditaire, qui intéressent d'autres maladies plus générales, c'est le psoriasis, la goutte, la maladie lupique, la sclérodermie, on parle aussi de la spondyarthrite ankylosante, hein, chez les gens qui ont des problèmes de dos, hein. On parle du syndrome sec, on parle aussi de plus en plus maintenant de la fibromyalgie, de la polyarthrite de la maladie de Lyme, vous savez, quand on se promène dans la forêt. Et puis, il y a aussi des formes dégénératives autres qui intéressent les os, c'est la maladie de Paget, qui intéresse les vaisseaux, c'est le syndrome de Raynaud. Et enfin, on peut rattacher à ça le syndrome, ce qu'on appelle du canal carpien, dont beaucoup de gens souffrent en prenant de l'âge.
D'accord. Alors, bon, docteur, une polyarthrite rhumatoïde débarque. Elle débarque comment, si je peux dire? Quelles en sont les causes?
Alors, les causes, c'est toujours des causes, je dirais, plutôt génétiques. Hein. On a 30 facteurs génétiques. Il y a des causes environnementales, je vais parler moins vite, hein, donc c'est tout ce qui est autour de nous, hein, et donc les gens qui favorisent des détériorations endocriniennes, des détériorations infectieuses, etc. Donc l'environnement est très important, et enfin et surtout le tabac. Il faut arrêter de fumer quand on a une polyarthrite rhumatoïde, d'accord? Et auparavant, il faut savoir, mais je vais en le parler juste après, c'est que ça intéresse plusieurs articulations. Hein. Donc cette maladie est inflammatoire, elle est auto-immune, hein, parce qu'elle développe des anticorps contre sa propre articulation. Il intéresse surtout les femmes. Et elle est héréditaire bien souvent.
Oui, elle intéresse les femmes et malheureusement de plus en plus de femmes fument.
Exactement.
Oui. Bon. Alors, qui dit inflammation dit bien évidemment douleur, mais alors quels sont les autres symptômes? Car la douleur accompagne justement beaucoup d'autres maladies.
La douleur accompagne beaucoup d'autres maladies. Alors les symptômes, en fait, c'est une diminution d'amplitude, donc des mouvements de l'articulation. C'est une déformation de ces articulations, et vous connaissez tous dans votre environnement familial ou amical ou autre, déformation des mains, des poignets, des genoux, des pieds, des épaules, des coudes, de la nuque, de la mâchoire, excusez le classement, de la hanche et des chevilles. Cette maladie évolue par poussée. On peut être tranquille pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, mais elle revient. Et les poussées souvent se rapprochent de plus en plus, et la maladie là est complètement évolutive. Elle apparaît surtout vers l'âge de 40 à 60 ans.
Eh bien, on est dedans alors, hein?
Bon. Oui.
Alors, docteur de Regnaucourt, cette journée mondiale a été instaurée pour pallier un diagnostic souvent trop tardif. Alors, pourquoi trop tardif? N'y a-t-il pas de symptômes précoces? Parce qu'en fait, chacun sait que les traitements précoces sont quand même souvent assez efficaces, et ce, d'ailleurs, pour toute maladie.
Oui, enfin, les traitements précoces soigne le symptôme, j'oserais dire. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est que les symptômes précoces? C'est des douleurs qui apparaissent de manière nocturne. Quand on dort, quand on se repose, l'articulation se met à souffrir quand même, malgré qu'on ne l'utilise pas. C'est l'engourdissement, la raideur matinale. Quand on se lève, il faut se dérouiller. On est dur au niveau de la nuque, on est dur au niveau du dos. C'est l'engourdissement. Enfin, apparaissent tout au début des signes de gonflement des articulations, notamment au niveau des mains, des doigts, des pieds. Des gonflements entraînent une diminution de la sensibilité et tout cela entraîne une fatigue qui n'est pas normale, qui est incompréhensible. Voilà les signes précoces.
Alors, en plus, je crois, docteur, qu'il n'y a pas de guérison possible. Et plus le diagnostic sera tardif, plus cette maladie sera invalidante et plus les traitements seront lourds.
Exactement. Alors, je le répète, j'insiste, c'est l'arrêt du tabac qui doit permettre de couper court à l'environnement nocif. C'est d'essayer d'avoir une alimentation saine, bien sûr. On en reviendra encore juste après. Alors, quels sont les traitements? Eh bien, on va parler d'hydroxychloroquine, la fameuse hydroxychloroquine. Mmh. C'était le premier traitement pour les maladies inflammatoires articulaires. Nous avons les dérivés de l'aspirine, la sulfalazine. Nous avons le méthotrexate, qui est un immunosuppresseur, ainsi que d'autres immunosuppresseurs. Les plus connus sont la cyclosporine, l'azathioprine, les interleukines, anti-interleukines, anti-januskinase, excusez-moi, je ne vais pas trop détailler. Et vous avez aussi, on a utilisé avant les sels d'or, et bien sûr toujours pour l'inflammation, l'œdème, les corticoïdes. Voilà les traitements dont on dispose. Il faut insister sur les nouveaux traitements, c'est les anti-TNF-alpha qui marchent très très bien.
Mmh. Oui, parce que quand on en vient aux corticoïdes, c'est quand même grave, évidemment, il y a beaucoup d'effets secondaires.
Avec tous les risques dus à ça, et souvenez-vous, et j'insiste, c'est que cette maladie, elle intéresse après les articulations, le cœur, les poumons, les vaisseaux, les reins. On fait une néphrite interstitielle, on fait une insuffisance respiratoire, on fait des troubles du rythme cardiaque et on a une artérite. Donc, vous voyez que l'inflammation peut diffuser. Inflammation.
Voilà. Alors, docteur Guido Regnaud-Court, vous êtes médecin gastro-entérologue. Alors, vous allez peut-être trouver la question un petit peu osée. Je me la permets quand même, je vous la pose en tant que candide. De plus en plus, nous apprenons que les douleurs articulaires prennent souvent racine dans notre intestin. Or, la polyarthrite rhumatoïde est définie comme une maladie auto-immune et ne serait-elle pas, comme la plupart de ces maladies, due à une surréaction de notre système immunitaire qui trouve sa source dans notre tube digestif? L'alimentation moderne n'y serait-elle pas finalement pour quelque chose, trop de viande ou trop de produits laitiers ou trop d'aliments favorisant l'accumulation de déchets mal digérés dans notre intestin?
Oui, alors je vais préciser si vous voulez. Le problème de la digestion, c'est le problème de nos germes que nous avons naturellement dans l'intestin grêle surtout, qui aident à la digestion. Et on s'est aperçu, en faisant des prélèvements, des coupes intestinales chez les gens qui ont une polyarthrite rhumatoïde, qu'il y avait une augmentation d'une bactérie particulière, une bactérie honnête, je dis comme commensale. C'est le Prevotello copri qui augmente à toute allure chez les gens qui ont une polyarthrite rhumatoïde. C'est une bactérie gramme négative. On est parti de là et on s'est aperçu qu'il fallait que on vérifie bien notre microbiote, la pullulation microbienne normale dans l'intestin, et que chez les gens qui ont une inflammation articulaire, il y a ce qu'on appelle une dysbiose, D-Y-S, c'est-à-dire un dérèglement, un déséquilibre de notre flore alimentaire et donc de notre flore intestinale, d'où le rôle de l'alimentation, d'où le rôle de la sensibilité de certains aliments. Il faut aussi ne pas oublier qu'en dehors de l'intestin, il y a la bouche et les dents. Et vous savez que maintenant, on sait que quand on fait de la parotidite, quand on prend de l'âge et qu'on a une inflammation chronique des gencives, on facilite le dérèglement du microbiote et on peut provoquer une poussée de polyarthrite. D'où ma conclusion, il faut se céder en choisissant des bons probiotiques. Et vous savez que le traitement ultime, on est en train de faire des recherches énormes là-dessus, c'est ce qu'on va appeler la transplantation fécale de micro-organismes.
Tout à fait.
Voilà. Vous voyez, on n'a pas fini. On avance et on avance toujours.
Docteur, merci. Et alors, je rappelle que l'Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde est particulièrement active, notamment sur Internet, et qu'elle peut être contactée au 0800 001 159. 0800 001 159. Docteur de Rognecourt, merci. Merci pour tous ces détails.
J'espère ne pas avoir été trop savant, excusez-moi, hein, et j'espère que je vais aider à la compréhension de cette maladie.
Bonne
journée.
Et puis aider surtout les gens à se rendre chez leur docteur, chez leur médecin pour faire un diagnostic s'ils ont des doutes, bien sûr.
Et surtout bien se nourrir.
Voilà. Merci docteur.
Je vous en prie.
Eh bien voilà, j'espère que vous avez appris quand même pas mal de choses. Voilà, l'air du temps est terminé. On se retrouve tout de suite, si vous le voulez bien, pour Kaléidoscope. Ce sera beaucoup plus cool avec sa chanson et sa musique. En tout cas, pour ceux qui nous quittent maintenant, très très bonne matinée à vous.